Je milite et je travaille au comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc, le secrétariat technique est en Belgique, donc on assure une coordination au niveau technique. Mais comme l'a dit Florian, c'est un réseau international, un réseau mondial, qui est présent donc en Amérique latine, en Afrique et en Asie, et de plus en plus en Europe, puisque la crise qui nous frappe actuellement en Europe suscite aussi des adhésions à notre comité pour l'annulation. Puisque maintenant, on travaille sur la dette des pays du Sud, mais également sur la dette des pays du Nord, puisqu'il y a plusieurs similitudes entre ces deux dettes. Donc, notre angle d'attaque, c'est la dette. Notre stratégie, c'est l'éducation populaire, l'éducation permanente pour susciter une mobilisation et faire pression sur les politiques pour qu'il y ait des vraies mesures progressistes fortes qui soient prises sur la dette et plus largement pour l'émancipation sociale et pour la souveraineté des peuples. Et notre stratégie, en plus de l'éducation populaire, c'est l'instrument de l'audit de la dette. Donc l'audit de la dette, c'est revenir sur l'origine de la dette pour montrer que cette dette est illégitime et que, par conséquent, elle ne doit pas être supportée par les peuples et, concrètement, elle doit être annulée purement et simplement. Alors, quel est le lien avec le soi-disant libre-échange? C'est que les traités de libre-échange ou les traités de protection des investissements, tout comme la dette, sont des outils qui oppriment les populations. Ce sont des obstacles aux droits humains, des obstacles à la souveraineté des peuples. Et ce sont des mécanismes qui servent principalement les transnationales. Donc les traités de libre-échange, c'est clair, on l'a déjà démontré ces 2 derniers jours. Mais pour la dette, c'est clair aussi, puisque les pays qui sont endettés se voient imposer des plans d'ajustement structurel. Donc ici, en Europe, on appelle ça plan d'austérité, plan de rigueur. Mais la logique est la même. Ces politiques tirent leur légitimité, entre guillemets, du niveau d'endettement. Et ces politiques servent l'implantation de ces transnationales qui peuvent s'accaparer les services publics qui sont privatisés et donc faire leur business dans les États qui sont démantelés par les créanciers en tête de liste, le FMI, la Banque mondiale et ici en Europe, la fameuse Troïka, donc Banque centrale européenne, Commission européenne et encore une fois FMI. Alors, le sujet qu'on m'a donné, c'est expliquer le fonctionnement des tribunaux qui protègent les investissements. Donc, qui donne raison aux transnationales dans la majorité des cas, et donner quelques pistes pour se libérer de l'emprise de ces tribunaux qui règlent les litiges donc entre les États et les soi-disant investisseurs, donc les transnationales. Alors, pour expliquer leur fonctionnement, il faut les nommer. Donc, qui sont ces tribunaux? Alors, les plus connus, ce sont la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, qui a son siège à Paris, la Cour d'arbitrage de Londres, la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm et je m'attarderai sur ce tribunal pendant ma présentation, le CIRDI. Donc le CIRDI, c'est le Centre international de règlement des différends sur les investissements. Donc c'est un tribunal qui fait partie du groupe Banque mondiale et qui est aujourd'hui l'arme privilégiée dont se servent les entreprises pour mettre à genoux les États, les mettre à genoux lorsque ces États prennent des mesures qui protègent la santé, qui protègent les droits des travailleurs ou qui protègent l'environnement. Mais je reviendrai plus longuement sur le CIRDI dans quelques minutes. Alors, ces tribunaux, tous ceux que je viens de citer, ce sont des tribunaux qui sont clairement au service des entreprises puisque ces tribunaux rendent leur jugement en appliquant ce qui est contenu dans ces fameux traités de libre-échange, ces fameux traités de protection des investissements. Et ces traités, comme on l'a vu ces 2 derniers jours, donnent exclusivement des droits pour les entreprises, sans contrepartie et rien en faveur des États. Donc c'est vraiment des tribunaux taillés sur mesure pour les multinationales. Et en plus de cela, ces tribunaux travaillent en toute opacité, hein. Les audiences se font à huis clos. Il n'y a pas d'appel possible. Donc, si l'État perd en première instance, il ne peut pas faire appel devant une autre juridiction. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une procédure unique. Et en plus de cela, les arbitres, donc ces fameux juges qui composent ces tribunaux d'arbitrage, s'arrogent un pouvoir assez important puisqu'ils vont interpréter de manière très large la notion d'investissement. Donc comme on l'a vu hier soir, donc le représentant de la CNUSED disait bien que la notion d'investissement est une notion trompeuse puisque bah, un investissement c'est juste une rentrée de capital dans le pays, mais ça ne veut pas forcément dire une amélioration des conditions de vie pour la population. Donc il citait l'exemple hier d'une multinationale qui rachète une entreprise existante dans un État, on considère que ça, c'est un investissement. Idem, la dette est aussi considérée comme un investissement, alors qu'on sait que cette dette est un mécanisme pour favoriser l'implantation des transnationales et pomper les ressources financières des pays en développement vers, vers le Nord, enfin vers les élites, vers les transnationales. Donc tout ça, c'est, ça donne un pouvoir assez important à ces tribunaux puisqu'ils vont pouvoir juger très largement la politique des États et la sanctionner lorsque cette politique, lorsque ces lois progressistes prises par certains gouvernements sont en contradiction avec les intérêts des investisseurs lorsque ça a une incidence sur leurs profits. Alors maintenant, le CIRDI. Donc le CIRDI, comme je le disais, donc c'est le tribunal de la Banque mondiale. Donc on voit déjà le problème, hein, à la fois juge et partie. Donc c'est un tribunal qui a été créé en 1966, mais qui n'a quasiment pas fonctionné jusqu'au début des années 90. Donc entre 66 et 90, il y a eu seulement 26 plaintes qui ont été portées devant le CIRDI. Donc la raison est simple, c'est que, grosso modo, avant les années 90, il y avait très peu de traités de protection des investissements qui étaient conclus entre les États. Donc les traités bilatéraux étaient avaient un niveau important, mais beaucoup moins élevé que le nombre actuel. Et donc avec la prolifération des traités bilatéraux sur les investissements, eh bien le CIRDI a vu son pouvoir s'accroître et donc a pu trancher énormément de litiges. Donc en seulement 20 ans, donc depuis les années 90, le CIRDI a connu près de 300 plaintes. Donc on voit, entre 1966 et 1990, il y a eu seulement 26 plaintes. Et entre 1990 et 2010, le CIRDI a connu 300 plaintes. Donc c'est vraiment un tribunal qui a qui a la cote, qui est souvent utilisé par les transnationales. Et pour cause, bah, comme je l'ai dit, c'est un organisme partial. Donc partial parce que, de fait, les panels d'arbitrage qui sont constitués, c'est des panels de 3 arbitres. Et dans les faits, il y a 2 arbitres qui protègent les intérêts des entreprises privées. Puisque la procédure est la suivante. Chaque partie au litige, donc l'État contre la multinationale, a le droit de choisir un arbitre. Donc ça fait un arbitre pour l'État et un arbitre pour la transnationale. Et le troisième arbitre doit être décidé de commun accord par les deux parties. Souvent, il n'y a pas d'accord. Donc qui tranche dans ce cas-là? Eh bien, c'est le président du CIRDI qui n'est autre que le président de la Banque mondiale. Donc on voit très bien le déséquilibre déjà dans la composition du panel qui va devoir juger du litige. Alors, je fais une petite parenthèse, je ne vais pas avoir le temps de développer le CIRDI, mais il y a vraiment de bons papiers qui sont écrits sur cette institution, donc le CETEM en a écrit, et Alejandro Tettelbaum a écrit un cahier critique sur les tribunaux d'arbitrage en collaboration avec le CETIM, et donc vous l'avez normalement dans votre farde. Donc voilà, je vous conseille de le lire puisque c'est très clair et ça explique le fonctionnement du CIRDI et plus largement des traités de libre-échange et des tribunaux qui protègent les investissements. Alors le CIRDI, aujourd'hui, juge les litiges principalement contre les pays du Sud. Donc ce sont majoritairement les pays du Sud qui sont traînés devant le CIRDI, mais pas uniquement, mais majoritairement ce sont des pays du Sud. Et l'Argentine bat tous les records puisque l'Argentine a 51 plaintes contre elle. Donc l'Argentine a déjà perdu près de 1 milliard de dollars en dommages et intérêts que l'Argentine a dû payer à la transnationale qui avait gagné devant le CIRDI. Donc 1 milliard de dollars, et aujourd'hui, donc il y a toujours des procès en cours qui n'ont pas été tranchés par le CIRDI, si l'Argentine perd tous ses procès, ce qui est fort possible, elle devra débourser 20 milliards de dollars. Donc 20 milliards de dollars, juste pour vous représenter un peu la somme, c'est 6 fois le budget de la santé et 3 fois celui de l'éducation, donc qui serait transféré vers le paiement des amendes au profit des transnationales. Donc vraiment, l'Argentine est en péril avec toutes les procédures qui sont intentées contre elle devant ce fameux Sirdi. Une petite anecdote aussi sur vraiment pour insister sur la partialité de ce tribunal, c'est et ça va vous parler puisqu'on est en Suisse, il y a eu un litige justement entre l'Argentine et Vivendi il y a quelques années, donc il y a eu un procès qui était porté devant le Sirdi, et dans le panel d'arbitres, il y avait une membre du conseil de surveillance d'UBS. Et UBS, à l'époque du litige, était actionnaire chez Vivendi. Donc vous voyez un peu le conflit d'intérêts qu'il y a dans ces jugements. Mais si les États critiquent ce panel, eh bien, s'ils le font trop tard, ben ce n'est pas possible de revenir sur le jugement puisqu'il n'y a pas d'appel, comme je l'ai dit. Donc l'Argentine, comme vous vous en doutez, a perdu son procès contre Vivendi. Alors l'engouement des transnationales pour le Sirdi, il s'explique aussi par le droit qu'appliquent les juges du Sirdi. Donc le droit qui est appliqué, c'est les traités de protection des investissements et rien d'autre. Et le Sirdi l'a dit à plusieurs reprises. Donc il y a eu les États qui se défendent, comme la Bolivie avant, comme l'Équateur, comme plusieurs États qui ont dit « D'accord, les investisseurs ont leurs droits, ils ont les traités de protection des investissements avec eux, mais nous, on a des arguments de protection des droits humains qu'on peut faire valoir. » Sauf que le Sirdi a dit « C'est très bien, vous pouvez faire valoir les droits humains, mais moi, je ne m'en occupe pas quand je rends ma sentence. » Donc ils l'ont dit très clairement, il n'y a pas de possibilité de gagner un procès devant le Sirdi en invoquant les droits humains. Les droits humains sont mis de côté puisque ce n'est pas la mission du Sirdi. Donc ça a été dit très clairement dans de nombreuses sentences, notamment des sentences rendues contre le Mexique. S'il y a un droit humain qui a été reconnu par le Sirdi, c'est le droit humain à la propriété privée. Donc le droit à la propriété privée, donc ça a été clairement dit, c'est valable. Le Sirdi peut le mettre en œuvre, l'appliquer pour rendre sa sentence. Donc la conséquence, donc il y a plein d'exemples qui sont inscrits, notamment dans le document dont je faisais référence, écrit par Alejandro Tettelbaum avec le CETIM, mais vraiment on a des situations délirantes où le Mexique, il y a quelques années, a refusé de délivrer un permis d'exploitation d'un entrepôt au profit d'une transnationale qui comptait mettre ses déchets toxiques. Donc le Mexique a dit « Je m'oppose à... je refuse de délivrer ce permis pour permettre à l'entreprise d'entreposer ses déchets toxiques parce que protection de l'environnement, protection de la santé de ma population, etc. » Eh bien, comme vous en doutez, le Sirdi a dit « Très bien, le droit à la santé, c'est très bien, mais chez moi, je m'occupe uniquement du droit des investissements et il y a un traité de libre-échange, de protection des investissements entre le Mexique et l'entreprise... qui invoquait l'autre... Enfin, je ne me souviens plus quel traité invoquait l'entreprise, mais bon, voilà, la décision a été de dire que le droit à la santé était inférieur aux investissements de l'entreprise. Parce qu'une mesure qui protège l'environnement, une mesure qui fait augmenter les impôts que doivent payer les transnationales, c'est considéré comme de l'expropriation. Donc c'est vraiment le terme qui est utilisé par le Sirdi, c'est de l'expropriation, le fait de prendre une loi pour protéger la santé, pour protéger l'environnement et pour mettre en place une fiscalité plus juste. Donc dans ces conditions-là, il n'y a aucun intérêt à continuer à s'en remettre à cette institution puisqu'on voit très bien qu'elle est partiale et en plus, elle ne tient pas compte des droits humains. Et ce qui m'amène à la dernière partie sur ce qu'on peut faire d'un point de vue juridique. La première chose à faire, il me semble, c'est se retirer de ce tribunal. Donc se retirer du Sirdi en disant, je ne reconnais plus la compétence de ce tribunal. Lorsque j'ai un litige avec les multinationales, ce ne sera plus le Sirdi qui sera compétent pour trancher le litige. Donc ça, c'est un droit qui est reconnu aux États. De la même façon que les États ont accepté de se laisser enfermer à travers les traités de libre-échange, à travers les traités de protection des investissements, ils peuvent très bien se retirer de ces traités et ils peuvent très bien se retirer de ces juridictions en disant « je ne reconnais plus la compétence de ces tribunaux ». Donc ça, ce n'est pas que de la théorie, ce n'est pas que du droit, c'est clairement appliqué puisque la Bolivie, en 2007, s'est retirée unilatéralement du Sirdi. En 2009, l'Équateur lui a emboîté le pas et s'est retiré du Sirdi. Janvier 2012, le Venezuela a fait de même. Donc ces trois États ont décidé, donc ils ont juste envoyé une lettre à la Banque mondiale en disant, dorénavant, tous mes litiges ne seront plus traités par le CIRDI et ce sera très bien comme ça. Et donc ça, c'est un droit qui est reconnu aux États. Ils peuvent très bien le faire, mais comme à chaque fois, ça repose sur une volonté politique. Alors, se retirer du CIRDI, c'est pas la panacée, c'est pas une fin en soi. C'est comme on le disait tout à l'heure et hier soir, c'est une question de stratégie. Donc c'est poser des jalons pour aller plus loin. Et l'objectif, c'est clairement pour l'État de retrouver, de recouvrer sa souveraineté et de pouvoir mener librement ses politiques de développement pour l'intérêt général. Et la sortie du CIRDI, de la même façon que l'annulation de la dette, c'est une condition indispensable, mais non suffisante, pour atteindre ces objectifs, donc la souveraineté et le respect des droits humains. Donc parallèlement à ce retrait du CIRDI, il faut savoir que l'Équateur et la Bolivie n'en sont pas restés là, ils ont entrepris une renégociation des traités de protection des investissements. Une renégociation ou même une dénonciation de ces traités. Donc une dénonciation en droit, ça veut dire je ne reconnais plus, je mets un terme à ces traités, je ne suis plus lié par ces traités qui protègent les investissements. Donc l'Équateur l'a fait en mettant un terme à 8 traités de libre-échange. Et en mettant en place, en 2010, un nouveau code de la production qui indique que les entreprises qui opèrent sur le sol équatorien doivent impérativement respecter les lois du peuple équatorien, donc respecter les droits des travailleurs, les droits sociaux et les droits environnementaux. Donc les entreprises sont soumises à ces droits lorsque elles veulent investir, entre guillemets, en Équateur. Et s'il y a un procès entre la multinationale qui opère en Équateur et l'État équatorien, eh bien ce sont les tribunaux équatoriens qui sont compétents pour juger du litige. Donc ça, en quelque sorte, c'est une réhabilitation d'une doctrine juridique qui est tombée en désuétude ces dernières années, qui est la doctrine Calvo. Donc la doctrine Calvo dit bien que lorsqu'il y a un litige entre un investisseur et un État, eh bien l'investisseur doit s'en remettre, doit porter l'affaire devant les tribunaux nationaux. C'est ce qu'a fait l'Équateur. D'autres mesures qui doivent être prises, c'est soumettre, pas uniquement sur la question des investissements, mais soumettre les entreprises au respect des droits humains. C'est ce qu'a fait aussi l'Équateur avec le cas Chevron, où les tribunaux équatoriens ont condamné en début de cette année Chevron à payer 18 milliards de dollars pour les dommages qui avaient été causés, des dommages environnementaux, des dommages sociaux, etc. Donc soumettre les entreprises aux droits humains. Et bien sûr, donc c'est tout ça est lié, hein, comme je l'ai dit en introduction, il faut remettre en cause les autres outils d'oppression sur les peuples, comme les plans d'ajustement structurel, les politiques d'austérité qui sont imposées aujourd'hui par les créanciers de la Troïka dans les pays du Nord. Et tout ça, bien sûr, repose, comme toujours, sur une mobilisation de masse, une mobilisation populaire pour susciter la volonté politique et mettre en œuvre le droit, puisque tout ça est possible dans le droit, mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la volonté de faire appliquer ces arguments juridiques.